L'astragale de Marseille est un bijou de l'évolution qui a su s'adapter aux conditions extrêmes de vent, de sel et d'aridité du littoral des Calanques.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chronique astragale. Je suis Gaëlle.
Je suis Céline.
Et je suis Manon.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée qui porte bien son surnom, Jennifer Trioro, dit Bulldozer. À seulement 32 ans, Jennifer s'est taillée une place de choix dans le monde des sports de combat, boxe française, kickboxing, K1, full contact et même MMA. Elle a tout exploré sans jamais reculer. Avec 37 combats à son actif, dont 23 victoires, Bulldozer est une véritable force de la nature. Mais derrière la combattante se cache aussi une passionnée pleine de projets. Bonjour Jennifer.
Bonjour à toutes.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci Gaëlle. Bonjour Céline, bonjour Manon.
Bonjour Jennifer, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Je suis ravie d'être là et j'ai hâte de vous parler un peu plus de mon parcours.
Ben on va démarrer, on va parler un peu de toi. Donc il y a Bulldozer la combattante et Jennifer la femme. T'es une sorte de super-héroïne qui se transforme. Comment on passe de la femme sexy et féminine en talons à la combattante aux pieds nus?
J'adore. Bon, ben déjà, ça fait partie intégrante de mon personnage parce que je pense qu'il n'y a pas de deux personnages. En fait, quand je suis en talons, j'ai le même état d'esprit que quand je suis dans une cage. Ça fait partie de moi. Je pense que dans chaque femme, on a ce côté explosif et doux à la fois. Je pense que c'est ce qui fait le caractère de chacune. Et moi, j'adore jouer sur le contraste parce que c'est vrai que quand on me voit en robe de soirée avec des talons, on ne se dit pas que je peux avoir les pieds nus dans une cage. Et je trouve ça très drôle et j'aime beaucoup jouer sur ce contraste-là.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de cette passion?
Pas du tout. Non, franchement, les sports de combat, après, c'est même pas que à titre féminin. En France, c'est très compliqué d'en vivre. Il y a quelques personnalités qui vont réussir à vivre plutôt du sponsoring que vraiment du sport. En kickboxing, c'est relativement compliqué de vivre avec les primes. En MMA, on commence à pouvoir parler de professionnalisme parce qu'il y a certains combattants qui arrivent à en vivre. Mais je pense quand même qu'il y a les sponsors qui aident beaucoup et les activités post-combat. Il y a des influenceurs, non, mais on va dire qu'il y a des combattants qui sont très actifs sur les réseaux et qui arrivent à vivre du sport, mais je dirais quand même plus des réseaux qui sont connus grâce au sport notamment. Mais moi, j'en vis clairement pas. J'ai un boulot à côté. Je travaille à 40 heures. Enfin, j'ai 2, 3, 4 activités même. Mais je n'ai jamais réussi à vivre du sport. Disons que ça met un certain confort avec quelques primes de combat. Mais j'ai jamais vécu de ça.
Donc moi, c'est vrai que d'entendre ça en te disant « Bon, ben voilà, moi, je suis salariée. Et en plus de ça, je fais mes combats les week-ends. » Comment tu gères ça? Mais vraiment dans la logistique, parce que c'est quand même fou de devoir travailler 40 heures par semaine, plus les entraînements, plus toutes les contraintes physiques, plus les combats, plus se remettre du combat. Enfin, peut-être que c'est des questions un peu innocentes, mais je me dis, mais en effet, quel bulldozer.
Non, franchement, c'est vrai que c'est toute une logistique. Je dirais clairement que c'est la passion qui prend le dessus parce que franchement, quand tu dois te lever après un combat, aller bosser, des fois, tu as des marques. Enfin, ça va que, on va dire, mon patron... Enfin, toutes les structures où j'ai travaillé, ils sont cool, ils sont OK avec ça. Je pense que vraiment, c'est aussi un atout majeur sur mon CV. Quand les personnes voient que je fais du sport à haut niveau et tu tapes juste mon nom sur Internet, tu vois tout ce que j'ai fait... L'avantage, c'est que ton patron, il est au courant. Quand j'ai une date de combat, ils sont relativement cool. Ils me laissent toujours des jours pour aller combattre, même si des fois, c'est compliqué. Je pense que je me suis créé une discipline qui fait que je vais avoir une routine particulière. Le lundi, je ne travaille pas, mais du coup, je m'entraîne une à deux fois dans la journée en fonction de mon échéance. Il y a des jours où, si le soir, j'ai envie de faire une soirée tranquille avec mon chéri à la maison, je vais aller m'entraîner à 6h du matin avant de bosser. Les jours où j'ai des combats, je pose mon jour, je vais combattre, mais je sais que deux jours après, je suis au boulot. Enfin, des fois, tu fais un voyage de fou, tu pars combattre à l'étranger et le lundi matin, tu retournes travailler, ma belle. Donc, franchement, je pense... Je dirais pas que c'est beaucoup plus difficile pour la récupération et la performance, mais clairement, si, tu es moins forcément aidé qu'une personne qui va pouvoir s'entraîner le matin, rentrer chez elle, se reposer, sans avoir le problème de « ouais, mais en fait, c'est qui va payer ma facture à la fin du mois ?» Moi, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'étais coach sportif, donc j'étais en auto-entrepreneuriat. Et le souci, c'est que tu te dis, ouais, ok, là, si cette semaine, j'ai pas tant de coaching, à la fin du mois, ça va être compliqué. J'ai pas de combat qui arrive. Donc, du coup, c'est compliqué. J'ai voulu me salarier pour me dire, déjà, les factures, j'y pense pas.
Pour être tranquille un
voilà,
petit peu.
Exactement. Et reprendre le plaisir dans le sport et me dire, ben maintenant, ça va être que de la passion. Il faut vraiment être passionné pour se lever à 6h du matin pour aller s'entraîner, franchement. Après, j'adore parce que je sais que quand moi, je parle de ça autour de moi, les gens, ils sont admiratifs et ils se disent « Ok, donc en fait, tout est possible, clairement. » Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des semaines où c'est... je suis fatiguée.
Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres et que j'ai envie de te poser depuis qu'on a commencé, Jennifer, c'est qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans le monde du MMA ? Est-ce que tu as dû être confrontée à des préjugés en plus de tous les obstacles que tu as pu, effectivement, dont tu as pu déjà nous faire part ?
Alors, honnêtement, moi, j'ai jamais rencontré des personnes en face de moi qui étaient réticentes. C'est-à-dire que jamais j'ai eu le problème à l'entraînement d'un mec qui me dit « Ah, vas-y, c'est bon, flemme, t'es une fille, je m'entraîne pas avec toi. » L'avantage, c'est que moi, je venais d'un autre sport auparavant et que du coup, j'avais quand même un bagage technique qui fait que si le mec, il me connaît un petit peu, il sait qu'on va pouvoir travailler, ça va être cool. Je dirais même que moi, j'ai subi le bon... Je suis une fille, on travaille deux fois plus et les mecs, ils sont un peu admiratifs de ce que tu fais. Ils savent le sport que c'est, ils savent les régimes, ils savent les combats, ce que ça implique et ce que ça demande. Et forcément, quand t'es une femme dans un milieu d'hommes, ils vont se dire « Ok, respect parce que la fille, elle en fait deux fois plus pour imposer sa place. » Clairement, on est des femmes, il n'y en a pas beaucoup dans ce sport, mais ça demande une implication, un travail. C'est un sport violent et forcément... Moi, j'ai toujours trouvé face à moi des gens qui étaient admiratifs, que ça soit extérieur au sport ou à l'intérieur du sport. Tous les mecs avec qui je m'entraîne, ils sont cool, ils sont admiratifs. Et quand t'es à l'entraînement, pour eux, ils font pas la différence si t'es une femme ou t'es un homme. Et ça, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je veux pas qu'on différencie, que je sois une fille ou que je sois un garçon, surtout pas à l'entraînement. Mmh. Voilà.
Super.
Tu as toujours voulu faire des sports de combat ou...
Franchement, pas forcément. Moi, j'ai commencé, j'ai fait de la natation synchronisée, j'ai fait de la danse, comme toutes les petites filles, clairement. Mais disons que j'ai eu quelques déboires dans ma jeunesse. J'ai commencé à être un peu dissipée à l'école et je commençais un peu à avoir des problèmes de comportement. Et initialement, mes parents, ils m'ont mis au sport de combat parce que mon frère, il en faisait. Et c'était plus pour me canaliser qu'autre chose. Et en fait, ils ont ouvert la mauvaise porte parce que moi, j'ai vraiment accroché. Et à partir de là, je me suis vraiment canalisée. Et ça a pris après une ampleur considérable. Quoi.
Et justement, toute cette carrière-là dans les sports de combat, au niveau de ton entourage, ça a été pris comment ?
Alors, franchement, au départ, quand j'étais jeune, ils se sont dit « Ok, elle aime ça, elle va faire des petites compétitions, ça va être cool. » Et en fait, quand ils ont vu... que ça commençait à prendre de l'ampleur. À 25 ans, je rentre en équipe de France et là, mes parents, ils se disent « Ouais, ok, bon, ça commence à être sérieux. » Je continue les combats. Quand je dis à mes parents que du coup, je veux faire du MMA, forcément, ma mère, elle n'était pas ravie, hein, pas te mentir. Mais mon père, il a toujours été à fond, vraiment. Mon père, c'est un gros sportif et je sais qu'il est ultra fier de tout le parcours que j'ai accompli. Et c'était le premier à me pousser. Et c'est vrai que le moment où j'ai voulu en vivre et que limite je mettais un peu le boulot de côté, c'était un peu compliqué quand forcément tes parents t'as envie de sécurité pour tes enfants, je pense. Et quand ils ont compris que je me donnais quand même les moyens et que j'essayais toujours d'avoir un petit boulot à côté, que j'étais sécuritaire, ils ont été à fond. Et défaite, victoire, mes parents ils sont toujours là, on a toujours le même petit rituel. Après un combat, j'appelle mon père. J'écoute, il y a ça va, j'ai perdu, j'ai gagné. Bon, je vais à l'hôpital, mais t'inquiète, c'est rien de grave. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est compliqué quand j'ai un combat, parce qu'ils sont forcément stressés. Mes parents, ils viennent pas me voir, parce que mon père, il est venu, il a vu un combat à Marseille où j'ai pris un énorme KO. Il m'a dit déjà, le KO, c'était affreux. Il m'a dit, mais même avant le combat, je peux pas, j'arrive plus, ça me demande trop... trop psychologiquement, j'arrive plus. Donc, je suis plus rassurée quand ils voient pas le combat et qu'on le regarde après ensemble si ça se passe bien.
Oui, parce que du coup, ça te met toi aussi une espèce de stress. Exactement. Parce qu'il y a tes parents.
Exactement.
Là,
moi, je me dis, mon père, il est dans la salle, il regarde. Enfin, forcément, tu te dis, faut que le combat il se passe bien, sinon. Donc, je préfère ne pas réfléchir à ça. Et me dire, bon, bah, c'est bon, on regardera le combat tranquille quand ça sera bien passé. Quoi.
Ouais, et rester concentré sur ce que tu t'apprêtes à faire sur le moment.
Exactement.
Jennifer, est-ce que tu as toujours aimé la compétition et est-ce que tu as un souvenir marquant, qu'il soit positif ou négatif, à nous partager ? Gaëlle nous rappelait tout à l'heure ton nombre de victoires, donc j'imagine que ça fait un paquet de souvenirs.
Alors franchement, je pense que j'ai toujours eu cet esprit de compète de petite. Parce que moi, j'ai vu mon père faire des courses, des trails, des grosses courses, des 100 km. Enfin, déjà, à l'époque, j'avais l'impression que c'était un truc de dingue. Et maintenant que je fais du sport, je me rends compte des performances. Et franchement, je sais que j'ai commencé à faire de la compète toute petite. J'avais commencé à faire des courses. Et je dirais pas que c'est les meilleures victoires parce que t'es insouciant et tu sais pas ce que ça représente. Mais je sais que j'ai toujours eu cet état d'esprit de vouloir me mesurer en compétition aux autres. Et on va pas se mentir, ça fait du bien à l'ego quand tu gagnes. Mais il y a une victoire marquante. C'est moi, mon parcours en MMA, il est compliqué. J'ai commencé par des défaites. Et l'année dernière à Dublin, donc j'étais pas du tout favorite, je suis sur le Cage Warrior, c'est une très bonne organisation où il y a beaucoup de visibilité. Et en fait, je suis en Irlande contre une Irlandaise. Clairement, j'étais vraiment pas favorite. On m'a appelée, je pense, plus pour la faire briller elle qu'autre chose. Et je gagne chez elle. Donc là, cette victoire-là, je l'ai vraiment, vraiment savourée parce que c'était ma première victoire en MMA. Et en plus, contre une étrangère chez elle, franchement, j'étais... Celle-là, je pense que je m'en rappellerai.
Je rebondis sur le côté visibilité. On a vu que tu as une grosse communauté sur les réseaux. Alors avant d'en parler un peu plus longuement, moi j'ai une question à te poser. La reine des océans, pourquoi ?
Alors ça j'ai changé il n'y a pas longtemps parce que pour moi, les sports de combat, c'est un océan de possibilités. Et je me dis que j'ai jamais refusé un défi, c'est-à-dire que si demain on propose un combat en boxe anglaise, en boxe thaï, peu importe, je pense que je pourrais y aller parce que...
Tu surferas sur la vague.
Voilà,
quoi.
Exactement. Et en fait, forcément, les cheveux rouges Ariel, du coup, la reine des océans, pour moi, ça sonnait bien. Et sur ce combat-là, en Irlande, clairement, je m'étais dit, cette fille-là, elle avait raté le poids, elle a pesé, elle était chez elle, moi j'étais partie et je me suis dit, je vais l'emmener en eau trouble. Et clairement, de là, je me suis dit, ouais, en fait, les océans, c'est mon mood. Et pour moi, les sports de combat, c'est un océan de possibilités. Et je suis là depuis des années. Je ne me fais pas détrôner par les petites jeunes. J'ai pris récemment une fille qui avait 10 cm de plus que moi, mais 10 ans de moins. Et j'ai montré que même si j'ai 10 ans de plus, je suis toujours là.
Je suis là.
Je suis toujours dans le game.
Et effectivement, Jennifer, tu as enchaîné pas mal de différentes disciplines dans le combat. Qu'est-ce que ça fait quand même à chaque fois de sortir de ta zone de confort comme ça ? Est-ce que tu as l'impression de recommencer de zéro à chaque fois ? Ou est-ce que, effectivement, parfois, tu as pu avoir certaines déconvenues du fait de toujours changer, te challenger sur ces différentes disciplines ?
Alors, honnêtement, moi, c'est vrai que j'aime bien me mettre en... sortir de ma zone de confort. Clairement, j'ai fait des années de boxe, donc on va se dire, ouais, ben ça va, en MMA, forcément, t'es arrivé, tu maîtrises un peu. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même sport. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris quelques revers au départ, c'est parce que forcément, je sors de ma zone de confort et malheureusement, vu l'état d'esprit que j'ai, je veux me jeter directement dans l'arène. Peut-être que j'aurais dû me préparer un petit peu plus longtemps sur certains combats, mais disons que j'aime bien me challenger et on va pas se mentir, oui, des fois t'as des déconvenues parce que c'est compliqué de s'adapter en si peu de temps. Et même quand tu retournes à tes anciens, là j'ai repris la boxe un petit peu, forcément tu perds des automatismes que t'avais et il faut retravailler dessus. Et franchement, c'est pas grave, ça me challenge et je me fixe de nouveaux objectifs à chaque échéance. Donc j'aime pas rester dans quelque chose de... où je suis confortable.
Super, merci.
Moi, j'ai une question. Combien de fractures et de séjours à l'hôpital ?
Alors, l'avantage, c'est que j'ai un squelette plutôt solide. On va toucher du bois. Parce que fracture, j'en ai pas beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu... généralement, les combats en MMA, déjà, je suis abîmée. On va pas se mentir, je prends beaucoup de coups. Et systématiquement, après les combats, j'ai un petit aller-retour à l'hôpital en général. Après, moi, je marque facilement. Je reste quand même une femme. J'ai la peau du visage qui est fragile. Et du coup... Pendant les combats, ça m'arrive de marquer directement. Je vais prendre 2-3 coups directs au début du combat. À la fin du combat, j'ai déjà l'œil qui est complètement fermé. Après, je ne m'affole pas. Hein. C'est mon dernier combat. Je saignais du nez. Il y a des gens qui vont s'affoler parce qu'ils saignent du nez. C'est un sport de combat. Je me dis que les bobos, c'est temporaire. Les petits cocards, les petits hématomes, c'est toujours plus impressionnant pour les autres que pour toi. Parce que clairement, je touche du bois. Je n'ai jamais eu de grosses blessures type fracture, fracture ouverte. Si c'est des petits bobos ou ça saigne un peu, ce n'est pas gênant. Par contre, c'est vrai que si c'est une fracture ou j'en sais rien, tu prends une soumission, tu te déboîtes le coude, l'épaule, tu te fais des ligaments. Là, c'est plus chiant parce que ça impacte forcément ta saison et tes années à venir. Donc, je touche du bois. On va dire que j'ai toujours fait du sport. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que je me suis relativement pas beaucoup blessée dans ma carrière. C'est que j'ai une bonne préparation physique derrière et ça, c'est important. Je pense que vraiment, il y a des gens malheureusement qui se jettent corps perdu dans les sports de combat, qui sont pas forcément préparés pour ce que ça implique au niveau articulation, etc. Et c'est important de le souligner, il faut se préparer physiquement. C'est pas quelque chose d'anodin, les sports de combat.
Justement, en parlant de ces préparations physiques qui sont hyper strictes, etc., on parle très peu de cet aspect-là, mais la santé mentale des sportifs comme ça, et notamment de combat. Toi, c'est quoi ce rapport-là? Comment tu fais pour encaisser les coups, on a plus ou moins compris, mais comment tu fais pour encaisser les défaites, le rythme intense parce que ton corps, il est quand même assez secoué. Ton corps et ton esprit... ils sont challengés à chaque fois. Donc, comment tu gères ça, en fait?
Je pleure. Non, je rigole. Je rigole, mais c'est la vérité.
Oui.
Il y a eu des fois où je rentre chez moi après un entraînement, j'ai la dalle, je suis au régime, je mange des haricots verts, je chiale. Je chiale parce que c'est trop dur. C'est... je suis une femme, des fois je vais avoir mon système hormonal qui va me faire péter un câble et du coup je pleure, les défaites c'est dur à encaisser, des fois je m'isole pendant 2-3 jours, ça m'est arrivé après un gros chaos à Marseille où le lendemain t'ouvres la Provence et ta tête par terre qui fait la une, à part t'enfermer chez toi et répondre à personne, ça m'est arrivé, hein, c'est dur à encaisser et on va dire que mon état d'esprit, je m'enferme généralement pendant 2-3 jours, je réponds à personne, ça c'est ce que je faisais avant. Maintenant, je vais lâcher les réseaux pendant 2-3 jours. Je vais prendre du temps avec mon chéri, mes copines, mes proches. Et je me dis, c'est du sport en fait.
Ouais, tu te ressources.
C'est du sport. Au départ, je le prenais vraiment comme si ma vie, elle en dépendait. Maintenant, je relativise plus. Depuis peu, je me fais accompagner parce que psychologiquement, il y a un impact. On se rend pas compte, mais une défaite, y a des gens qui vont tout remettre en question. Moi, la première... Ça m'est arrivé de remettre ma vie en question, alors que ma vie, elle ne dépend pas du tout de ce sport. Mais forcément, tu vas avoir les articles de presse qui vont parler de ta performance. Tu vas avoir les gens sur les réseaux.
C'est ça, justement.
C'est aussi le revers de la médaille. Voilà. Je décide de m'exposer. Forcément, tu t'exposes au bien et aux critiques. Et du coup, tu vas avoir des gens qui vont forcément sauter de joie quand tu perds. C'est pas grave. Enfin, je me dis, ces gens-là, je les connais pas. Ils feront jamais le quart de moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je le prends avec plus de recul maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué malgré les défaites. Je pense qu'il y a peut-être 70% des gens qui auraient arrêté. Quand tu as 1, 2, 3, 4 défaites, moi, j'ai continué. Et je me dis, en fait, moi, j'aime me battre. On me donne des sous pour ça, je vais continuer à le faire, en fait.
Tant qu'à faire.
Ma foi.
De quoi tu as le plus peur, là, aujourd'hui?
Quand je vais m'arrêter. Parce que, clairement, je me sens pas encore prête. Je me dis, j'ai 32, bientôt 33. Peut-être qu'au bout d'un moment, ma belle, il va falloir s'arrêter, penser à autre chose. Et en fait, ça fait peur. Parce que tu dis l'adrénaline que j'ai avec le sport. Est-ce que je sais que je continuerai toujours de faire du sport? Peut-être que je me lancerai dans d'autres compétitions. Je sais que je ferai des courses. L'Irox, ça me tente depuis quelques temps parce que là, c'est pas mal en vogue. Mais je me dis, est-ce que je retrouverai la même adrénaline qu'avec les sports de combat? Je ne sais pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Mais je sais que je trouverai sûrement autre chose qui me fera me sentir aussi bien. Mais c'est vrai que c'est l'arrêt qui m'effraie un peu.
Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé donc de tes combats et à juste titre, hein, parce que c'est très impressionnant. Mais au-delà d'être une combattante, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de partager aujourd'hui avec nos auditeurs ? Tu nous disais aussi que tu partageais pas mal de choses sur tes réseaux. Est-ce que donc c'est Jennifer, la combattante, le bulldozer, ou est-ce que est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta personnalité ou de ce que tu aimes faire que tu aimerais nous partager aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que longtemps, moi, je me suis cantonnée à les gens, ils me suivent parce que je fais des sports de combat. Je pensais que vraiment, genre, c'était ma personnalité, j'étais définie par ça. Et j'ai mon chéri actuel, genre, voilà, je vais être émue, tant pis, mais qui m'a dit, moi, le sport, c'est faut que t'arrêtes de croire que c'est ça qui te définit. Longtemps, j'ai cru que moi, j'étais définie par le sport. Et en fait, il m'a dit, les gens, ils te kiffent parce que c'est ta personnalité. Il faut vraiment que tu comprennes ça. J'ai mis du temps à le comprendre. Désolée. C'est vrai que j'ai mis longtemps à me dire, ouais, en fait, c'est vrai que les gens, ils me suivent. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je marche sur les réseaux. Parce que c'est ma personnalité, c'est ce que je vais partager. N'importe qui peut combattre pour entrer dans une cage. Et t'en as plein qui le font même mieux que moi, parce qu'ils ont forcément des meilleurs résultats. Mais disons que ce que je transmets, moi, c'est l'état d'esprit. Et ce que je dis tout le temps sur mes réseaux, c'est que moi je me qualifie comme un clébard parce que malgré les défaites j'ai jamais arrêté et c'est pas ce qui va me faire arrêter. Demain si j'arrête c'est parce que j'ai pris la décision, peut-être que ça sera après une énorme victoire, mais parce que j'aurais pris la décision. Et je pense que Jennifer la personne c'est aussi la combattante, et même si j'ai mis du temps à m'en rendre compte, c'est ce qui fait que les gens me suivent, je pense. Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais je ne suis pas définie que par mon sport.
Mais merci, ça se ressent. Hein,
merci. Oui, tout à fait.
Merci. Ça se ressent, c'est bien.
Merci.
En tout cas, merci.
Oh,
tout va bien. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu travaillais à côté. Et en fait, moi, je suis curieuse de savoir ce que tu fais dans la vie.
Alors moi, j'ai fait beaucoup de choses. Il faut savoir que vu que j'ai quand même toujours fait passer le sport en priorité, j'ai toujours voulu avoir un taf qui me permet d'aller combattre, qui me permet d'avoir des jours de repos et quelque chose de pas trop prenant, entre guillemets. Donc moi, j'ai fait des études de droit à la base. C'est pour ça que vraiment, les gens, ils me disent « Non, mais t'es un couteau suisse. » J'avais décidé de faire ça parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et je m'étais dit « Dans tous les cas, c'est un bon bagage. Si je veux passer un concours, j'ai un bac plus 3. Si je veux m'orienter dans le juridique, je peux. » J'aurais rêvé d'être avocate, mais en fait, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et vu que moi, j'ai fait le choix du sport et que c'était quelque chose de déjà très prenant, disons que je suis rentrée dans le monde du salariat, j'ai bossé pour des huissiers, j'ai bossé dans la restauration, j'ai bossé dans le monde de la nuit, j'ai bossé dans la vente. Là, actuellement, je travaille dans une clinique esthétique. Voilà. J'adore. Donc, absolument rien à voir.
Mais c'est le comble, c'est, quand c'est même.
T'arrives la tête amochée dans
les... Exactement. Donc, c'est vrai que mon patron, en plus, je suis à l'accueil. Donc, du coup, les gens, ils se disent, ouais, non, mais il y a un problème. Mais c'est le monde de l'esthétique que j'adore. Et c'est vrai que c'est ultra contradictoire avec mon sport. Mais je me régale dans ce boulot parce que le monde de l'esthétique, ça me plaît énormément. Et c'est vrai que c'est ultra contradictoire. Mais,
oui, c'est ça, parce que t'es super paradoxale, parce que t'es hyper féminine. Ben ouais. Voilà, et c'est... Bon, après, ça regroupe exactement ce que tu es.
Ouais, voilà, exactement. Voilà. Ça va avec mon personnage, et c'est un des boulots où je me suis le plus épanouie, parce que c'est un milieu que j'adore, et en fait, j'aurais dû travailler dans ça depuis bien longtemps. Je kiffe beaucoup plus que bosser pour des huissiers, même si c'était une bonne expérience.
On va pas dénigrer. Mais du coup, on a cru comprendre que... Enfin, tu nous disais que tu avais quand même... envie de certains projets, peut-être de transmission auprès des jeunes, etc. Est-ce que tu serais OK de nous en parler un petit peu, même si peut-être c'est un peu prématuré?
Non,
ou c'est pas...
pas du tout. Ouais, avec plaisir. En fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours bossé pour quelqu'un, du salariat, etc. Alors, c'est vrai que c'est bien, mais j'ai une tonne d'idées en tête. J'aimerais pouvoir développer plus mes réseaux. C'est vrai que ça, c'est quelque chose... que j'adore faire, et malheureusement il faut du temps, il faut pouvoir consacrer du temps. Il faut pas croire, les influenceurs, on les critique sans arrêt, mais c'est du temps
à temps plein, ouais.
Voilà, c'est une activité à temps plein. Et franchement, moi j'aimerais pouvoir avoir mon truc à moi. Alors je sais pas encore dans quoi, je sais pas, j'ai une tonne d'idées, mais il faut que je me structure. Mais c'est vrai que dans les années à venir, j'aimerais développer mon concept, quelque chose de, qui me soit propre et qui me permette de vivre. Donc, je me dis peut-être me concentrer sur ça une fois que j'aurai fini ma carrière sportive. C'est pas pour tout de suite, mais du coup, ouais, c'est vrai que j'ai plein d'idées. Il y a pas mal de choses qui me tiennent à cœur. La cause des femmes, moi, si demain on me dit bah, tu représentes vachement l'état d'esprit féminin, t'es une femme qui se bat, il y a un sujet que qui m'est sensible, c'est bah, les violences en général hein, contre bah, les minorités, les femmes, les enfants, ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est vrai que si moi, demain, ma voix, ma visibilité, je peux faire quelque chose en fonction de ça, bah, je serais vraiment... C'est des sujets qui me tiennent à cœur et vu que moi, j'ai toujours fonctionné avec des choses qui me tiennent à cœur, j'aimerais pouvoir... bah, que, si ma voix, elle peut faire changer les choses, je serais ravie.
Merci. Avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, j'ai une question. Si tu devais donner un conseil à une petite fille qui veut se lancer dans le MMA, tu lui dirais quoi ?
Je lui dirais pleurer bon coup avant et il faut se lancer. Parce que moi, quand je me revois petite, j'étais ultra timide, très introvertie. Et je dirais que ça a développé mon tempérament, mais de dingue. L'avantage, c'est que ça m'a aidé dans toute ma vie. Ça m'a aidé dans mes relations avec les autres, ça m'a aidé dans le monde du travail et dans le sport au niveau estime de soi. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour développer son estime de soi. Et franchement, manque de confiance pour beaucoup de choses. Je conseillerais à n'importe qui de faire des sports de combat.
Voilà. D'accord. On peut voir dans tes stories Insta que tu as souvent un casque de musique sur les oreilles. Comment la musique t'aide dans ta vie de femme et dans ta vie de combattante ?
Franchement, le rapport à la musique pour les sports de combat, si on rentre sur une musique qui nous est propre à chaque combat, je pense que c'est pas pour rien. L'entraînement, quand t'es seule, que tu te fais un entraînement, qu'il est 20h, qu'il est 6h du matin, t'as besoin d'avoir du son qui te motive. Moi, je sais que je mets toujours de la musique. Le matin, je me prépare, je mets de la musique. Je suis dans ma voiture, je mets de la musique. Si je dois faire un long trajet, je mets de la musique. C'est trop important. Y a certaines musiques qui vont faire qu'il y a une vibe, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et je pense qu'on est lié à la musique, même pas forcément combattant, hein, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui va m'aider. C'est-à-dire que si j'ai pas de musique, si j'ai pas de batterie dans mon casque et que je suis à l'entraînement, je suis très énervée, en fait.
Sur quelle musique ? Parce que moi, j'ai fait un peu de boxe et il y a pas mal de compétitions. Et je sais qu'à chaque entrée des combattants, il y a une musique de lancement qui est choisie par le combattant.
Ouais.
D'introduction. Toi, c'est quoi le son sur lequel tu fais ton entrée sur le ring ou dans la cage ?
Alors, j'ai changé beaucoup de fois dans ma carrière, mais il y a une musique qui m'a particulièrement transcendée et que vraiment, je trouve qu'elle est hyper symbolique parce que l'artiste, il est marseillais.
Il est passé en concert, d'ailleurs.
Il n'étais pas au concert, mais c'est une vibe qui est propre à Marseille, et quand j'ai combattu à Dublin, j'ai mis cette musique d'entrée, parce que je l'avais entendue à l'entraînement, et en fait, l'intro de départ, elle m'a fait un truc, j'ai ressenti quelque chose, et je me suis dit, non, ce son, vraiment, il faut que je le mette quand je rentre dans la cage, parce que la vibe que j'ai eue au moment où j'ai entendu cette musique, j'ai dit, faut que je réussisse à retranscrire ce moment, et je sais qu'il n'y a que la musique où tu peux ressentir cette émotion-là, et j'ai mis cette musique, donc, à Dublin, pour me dire vraiment, genre, je ramène Marseille avec moi. Et franchement, bah, j'ai gagné. Et cette musique, je l'ai remise sur plusieurs combats parce que vraiment, elle, y a un truc. C'est inexplicable.
Et c'est quoi alors ?
C'est La Faille de Jules.
On l'écoute ?
Ah bah oui.
Allez.
Faire les boutiques, faut que je m'en aille sous les tropiques. Jamais je montrais ma vie, je fais gaffe maintenant ça va vite. Dis-moi qui veut me faire, j'ai pas d'AK, pas de revolver. Et quand je me déplace, ils me prennent la sécu comme si j'étais le maire. Les problèmes j'ai additionné, je me suis fait perquisitionner. Dis pas que tu vas me saucissonner, ou toi et moi on va chiffonner. J'ai la raille visière fumée, c'est comme ça où je suis né. J'avais besoin de sensations, je me suis
qu'on va niquer. Le succès m'a emprisonné. Un faux pas, je finis sur le journal. Ça m'a levé l'envie de zoner. Y'a des jours bien, des jours mal. Je côtoyais des bandes de pourriture. Je t'avoue, pour moi c'était dur. Le bon Dieu, il m'a levé plein de gens qui font plus partie de l'aventure. À la base, je comptais pas percer. Pour moi, c'était muerto. Maintenant, je veux la GS à côté de la Lamborghini Revuelto. Tu sais que la lune, je vise. Je crois en moi et j'ose. Et à chaque fois que je vieillis, j'accepte un peu plus les choses. Même malade, j'envoie les doses. J'aime bien ce que je te propose. J'aime bien quand je lève le scooter. À la rue, j'en mermoz. En fumette face à McDo. J'prends un menu fish potatoes. Et en revenant du ski, ils ont failli me lever la carte rose. On m'a appris quand j'étais gosse. On m'a dit, monte pas traite dans ta caisse. Dis-toi toujours que tout va bien. Ouais, le problème, c'est dans ta tête. Ça va te mettre la tête au carré. Ya 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 ya. Si sur moi tu continues de failler. Ya 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 ya. J'fais des albums, j'fais le temps de bailler. Ya 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 ya. La musique, j'capte la faille. Ya 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 ya. Moi, j'aime pas ceux qui bavent. Sans même plus qui ils sont. Y'a des mecs qui parlent, y'a des mecs qui font. Et souvent ceux qui font, tu sais qu'ils aiment pas trop ceux qui parlent. Moi mon sens, j'respecte tout le monde, chrétien, musulman ou que tu es là qui parle. On m'a dit sur un vandal, tout le ballon le qui part. Surtout fais pas le colleur, vont niquer quand y'a pas le surveillant qui passe. Et sur PP je flanche pas, ouais. Même si c'est un missile, ouais. Même si elle a un grand cœur, ouais. Et qu'elle sait faire la cuisine. Je viens de là où y'a du vol, des braquages et des homicides. C'est la guerre. Ma plaque comme des pervers. Alors je change de voiture. Ça me reconnaît même quand je m'habille pas à terre-terre. Que je mets des polos nature. Tu m'as pas écouté pourtant. J'étais clair comme l'eau. Je viens te parler pour toi. Toi t'es là, tu me parles de l'autre. Quand j'entends Schmitt pour le ventre. J'ai pas eu le bac trop ventre. Je sais que j'aurais jamais pu finir avocat à Aix-en-Provence. Et chaque fois ça recommence. Moi je suis ni à pas d'arrogance. J'ai perdu beaucoup de frangins. J'ai les larmes quand des fois j'y repense. Ça parle en ouais, t'es trop belle. Tiens pas snap, moi je n'ai qu'à romance. Je les touche déjà avec les mots. Pourquoi faire parler la violence? Moi je carie où t'étais. Tu t'as trop sur PP. On s'est laissé, tu étais pété. Tu faisais que te répéter. Y'en a qui me dit j'ai mon métaux. Au cas où s'il y a vendetta. J'ai que les potos dans le ghetto. Ils ont tous la haine contre l'état. Des roues arrière sur la moto. Des bavettes à l'entrée du quartier. Des guetteurs postés comme des poteaux. 14 juillet c'est guerre de mortier, ouais. L-O-V-N-I, les hauts clés avec les DNE. Nous on est là, on roule des gros berings. Pendant que les anciens jouent au PMU. Ça va te mettre la tête au carré. Ya 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 ya. Si sur moi tu continues de parler. Ya 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 ya. Je fais des albums, j'fais le temps de bailler. Ya 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 ya. La musique, j'capte la faille. Ya 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 ya. Ça va te mettre la tête au carré. Ya ya ya.
Donc c'était Joule.
Oui.
Je suppose que tu n'écoutes pas que du Joule.
Non, franchement, j'écoute de tout. Moi, j'ai pas de registre particulier. Il faut que la musique, il y a une vibe. Il faut qu'elle me fasse quelque chose. Donc je peux écouter bah, du Joule comme du Joule. Il y a l'idée. J'ai pas de...
Éclectique.
Exactement.
Et sur quelle musique, quel son, tu danses à fond, Tu lâches tout. Tu lâches les chevaux, tu lâches tout.
Franchement, ça dépend de mon état.
Alors la dernière fois,
quand t'as dansé, c'était sur quoi?
Franchement, je réfléchis. Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Hein. En vrai, les musiques actuelles, tu sais, les musiques qui sont un peu musique d'été, ça peut. Je peux me lâcher. Tu sais, les sons qui sont à la mode l'été.
Ouais.
Ça peut être pas mal. Ouais.
Mais tu sors un peu ou pas?
C'est rare.
Ouais, c'est rare.
C'est rare. Quand je suis en off de combat, ouais, je m'accorde quand même une petite période de fête.
Voilà. Avec des copines?
Ouais.
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 elles sont un peu fofolles, elles t'entraînent un petit
peu. Exactement. Ouais, ouais, j'ai des copines qui aiment bien sortir.
On assimile souvent la musique parfois à des moments de vie, des moments qui évoquent l'enfance, l'adolescence ou même bah, un combat, comme tu nous l'as partagé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une musique comme ça que tu aimerais nous partager, qui fait écho en toi?
Un peu Madeleine de Proust.
Ouais, bah, je dirais, bon, c'est une musique à l'ancienne, mais je sais que je me suis trop ambiancée dessus. Mais
c'est ça qu'on aime. Hein.
C'est Welcome to Saint-Tropez.
Ah.
Cette musique, vraiment, genre, je sais pas, ça me fait penser, ouais, quand je vais faire la fête. Ouais, voilà.
Donc, un peu de fête.
Un peu de fête. Oui, quand même. Non, parce que j'ai quand même bossé pas mal dans le monde de la nuit pendant quelques années. Et j'aimais bien la fête à cette époque-là. Mais vu que c'était dans le cadre du travail, c'était différent. Mais j'aime bien la fête de temps en temps, quand même.
D'accord. Ouais, il nous faut un petit peu.
Un petit peu.
Et la Jennifer de 15 ans, qu'est-ce qu'elle écoutait, la Jennifer adolescente?
Franchement, j'ai toujours été éclectique. Parce que je me suis jamais cantonnée à un style de musique particulier. J'aimais... Franchement, ça peut être n'importe quelle musique. Je vais adorer Charles Aznavour comme...
On adore ici aussi.
On adore ici. Ah, bah,
franchement, il y a des musiques, j'adore. Il y a un combattant d'ailleurs qui a fait une entrée sur une musique de Charles Aznavour. J'ai trouvé ça hyper... ouais, j'adore parce que ça change du registre actuel. C'est vrai que tu vas avoir tendance à avoir des mecs qui vont rentrer sur des musiques un peu agressives.
Ouais, ça peut déstabiliser aussi.
Et de fou. Et en fait, il est rentré sur une musique de Charles Aznavour et j'ai bien aimé parce que je trouve que ça change. Et c'était un petit clin d'œil... pas mal, et franchement, ouais, peu importe, en fait, il faut que la musique elle crée quelque chose en moi.
C'était peut-être une technique pour déstabiliser l'adversaire.
Bah, ouais, bah après, il y a un mec de mon club qui était rentré sur Partenaire Particulier.
Ah, mais extra.
Avec la petite danse qui va avec et tout, et je m'étais dit, là, ok, ouais, là, c'est un ouf.
Ouais, il en faut pour tous les goûts.
Exactement, exactement.
Et est-ce qu'il y a un morceau que tu connais par cœur?
Il y en a plein, mais...
Ben, celui que tu chantes, taf.
Ben, je pense que on va dire, on a parlé des copines, Vita James, Confession Nocturne.
Ah bah oui.
Celui-là, je pense que toutes les filles, on le connaît par cœur et en soirée, on chante dessus.
Ouais, on est à fond, on est tous Vita ou on est tous James.
C'est clair.
Une ou l'autre.
Du coup, ouais, celui-là, ça, je connais par cœur.
Bon, génial. Et quelle serait ta chanson totem, la chanson qui te booste?
Alors là, j'en ai une que moi, j'adore, que j'écoute avant les combats. Ouais. Et qui met dans un mood festif, ben voilà, celle-là, clairement, je pourrais l'écouter avant de partir en soirée. C'est Together Again de Janet Jackson.
Elle est géniale, celle-là.
Je l'adore, vraiment.
On l'écoute ?
Oui. There are times when I look above and beyond. There are times when I feel your love. Forget my baby. I'll never forget you.
Alors, j'ai encore deux questions avant qu'on passe à la dernière phase de l'émission.
Ok.
Ta chanson d'amour préférée?
Ouf. Ti amo.
Ti amo.
Ouais, j'adore.
Et la chanson qui t'insupporte le plus?
Ça, c'est dur, hein.
Une que t'aimes vraiment pas.
Ou peut-être un style de musique que t'aimes pas forcément.
Une musique qui m'insupporte. Peut-être des trucs que j'ai trop entendus, mais...
Moi, par exemple, j'aime pas Jul. Je l'annonce, je le dis, je l'assume.
Non, moi, j'aime bien parce qu'il représente un peu ce que moi, je prône. Il a toujours bossé. Ça a été un mec hyper bosseur. Il était dans son coin pendant longtemps. Et il est resté ultra, ultra simple. Malgré...
Sur ça, on est tous d'accord.
Oui, oui. Moi, c'est son style musical. Que
mais moi, j'aime bien. Il y a certaines musiques... bon, voilà, mais il y a des musiques qui sortent du lot. Je vais le défendre, tchou. Mais non, je dirais Grand Corps Malade. Le slam, je suis pas fan.
Ouais.
Voilà, je sais pas.
Bon, ça tombe bien parce que tu nous as réaffirmé ton amour de Jul. Et on va l'écouter une dernière fois pour faire effectivement transition sur la dernière partie de cette émission qui porte sur notre ville bien-aimée Marseille.
Au plus grand bonheur de Gaël, du coup.
L'école était accrochée à un flanc de colline, surplombant une ville vieille de 3 millénaires. Lorsque la nuit tombait, étalant son voile noir sur la cité, sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux, vous êtes à Marseille.
De l'époque où cette ville a connu tant de peines, où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines, lorsque les vrais avec leurs poèmes menaient les chrysanthèmes, mais que les grands baladaient les fers dans les vestes. Faut s'y ancrer dans mon ADN, claquette des KDM, on fait le monde assis sur le capot de la VM.
Voilà, c'était un bonheur de courte durée, je suis navrée, mais tu pourras peut-être l'écouter en entier tout à l'heure en rentrant chez toi. Alors, Jennifer, est-ce que tu es née à Marseille, dis-moi?
Eh ben là, malheureusement, non.
Ah, on était tout parfait, là.
Je suis née dans le 93.
Mais non.
Si.
Alors ça, c'est une drôle de...
Le comble.
Le comble.
Franchement, le comble, parce que à m'entendre... Et
à l'accent.
Quand je dis aux gens, je suis pas née à Marseille, c'est un choc total. Et surtout, je suis née dans le 93 à Aubervilliers, encore pire.
Comment es-tu arrivée ici, alors? Raconte-nous.
Eh bien, en fait, c'est mon papa qui a été muté sur Marseille. Et du coup, je suis arrivée très, très jeune. Hein. C'est pour ça que, du coup, moi, je me considère comme marseillaise. Je suis arrivée ici, je pense que j'avais 4 ans. Voilà, donc du coup, pour moi, je suis née à Marseille.
Bon, ça va.
Je pense que c'est accepté.
Et du coup, ton rapport avec la ville, etc., est-ce que voilà, t'as toujours vécu dans le même quartier ou est-ce que t'as déménagé
Alors moi, j'ai pas mal bougé. Moi, déjà, Marseille, pour moi, c'est une belle ville, malgré tout ce qu'on peut entendre sur nous, sur les réseaux ou à la télé, hein, tout simplement, dans les chaînes d'information qui sont des fois un petit peu... pour moi, c'est hyper exagéré parce qu'on a de très belles choses à Marseille. Je pense que c'est comme dans toutes les villes. Malheureusement, on fait ressortir beaucoup les mauvais côtés. Je pense que Paris, c'est la même chose. Mais Marseille, clairement, on a un super patrimoine. On a de très beaux quartiers et on a une population, on peut dire ce qu'on veut, qui est hyper... hyper accueillante. C'est hyper cosmopolite et ça réunit beaucoup trop de choses différentes. Et les gens, ils vivent super bien ensemble. Et je pense que c'est surtout... On parle pas assez de ça, à mon avis, dans les réseaux et aux chaînes d'information. On parle que de l'insécurité et on tape toujours sur les mêmes sujets. Mais moi, je me suis toujours sentie bien dans cette ville. Et j'ai toujours plus ou moins vécu dans les mêmes quartiers. Moi, j'ai grandi dans le 11e arrondissement à Marseille. Les Cailloles, c'était un petit quartier sympa. Voilà, et il m'est jamais rien arrivé de fou. Et après, j'ai déménagé dans le 10e. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Là, actuellement, je suis à Saint-Loup. Et il y a mon club de MMA qui est là-bas à Saint-Loup. J'aime beaucoup ce quartier. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand j'ai déménagé, j'ai cherché dans cet endroit-là parce que j'aime bien ce quartier. Et là, actuellement, je suis dans le 10e et c'est un quartier que j'aime bien.
Est-ce qu'il y a des lieux à Marseille qui ont une signification particulière pour toi ou que tu aimes particulièrement ?
Bah, je dirais centre-ville. Centre-ville, on réunit tout. Moi, j'ai bossé dans le centre-ville. J'aime beaucoup le Prado. Hein. Le Prado, c'est un lieu culte à Marseille. J'ai travaillé, moi, au Sport Beach, pour ceux qui connaissent Marseille. Voilà, c'est quand même un lieu phare de Marseille et j'ai découvert un peu le monde de la nuit là-bas et franchement l'été c'est à faire pour les gens qui connaissent pas la ville. La journée comme la nuit c'est sympa et ouais j'aime bien le 8e, c'est un beau quartier, c'est sympa, il y a de jolies plages, c'est à faire franchement.
Est-ce qu'il y a un restaurant à Marseille que tu nous conseillerais?
Il y en a plein, clairement il y en a plein, et plus le temps passe, plus il y a de super bonnes adresses, il y a de nouveaux concepts qui sortent, et franchement, bon moi j'étais très fan, mais c'est une chaîne, le Splendido, c'est bon, mais bon voilà, c'est une chaîne, donc, mais je dirais, Amista à la Valentine, j'aime bien. C'est un petit resto sympa, t'as toujours de la place, tu peux, même des grosses tablées, tu peux le faire. Après, il y a tellement de restos, le Sport Beach, je vous le conseillerais juste pour la vue, en fait. C'est clairement, je vais travailler pour eux toujours. Mais c'est sympa, ouais, il y a des lieux, il y a des bonnes adresses à Marseille quand même.
Et est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes t'entraîner quand t'es en extérieur, quand t'es à Marseille ?
La Corniche, hein. Pour courir, je pense au niveau vue, difficile de faire mieux.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que cette ville t'a apporté des choses, notamment sur le plan professionnel? On parle d'entraînement. Est-ce qu'on fait beaucoup de MMA à Marseille?
Ben, clairement, ça, c'est, y a pas énormément de clubs, mais on va dire que les plus gros talents de Marseille, ils sont tous concentrés au même endroit, hein, dans mon club, je dirais. Mais je pense qu'une personne qui a fait beaucoup pour le sport dans cette ville, c'est Jean-Michel Foissard, donc mon entraîneur. Il a su développer sa salle. Hein. Moi, j'ai commencé avec lui, on n'était pas beaucoup. Et quand ça s'est développé en France, lui, s'est développé aussi. Et ça reste une association, hein. C'est pas une salle qu'on lui... Enfin voilà, lui, il loue ses locaux, il n'a pas de subvention. Et franchement, c'est quelqu'un d'hyper passionné, investi. Dans notre club, il y a aussi la section féminine qui a ouvert, donc ça c'est un gros step, c'est la plus grosse section féminine de France, MMA Women Team, j'en parle. Je pense à Swill et Nadia qui ont développé le concept et qui font beaucoup pour le sport féminin, puisque c'est quand même un sport où il y a des nanas qui veulent s'entraîner mais qui veulent pas forcément s'entraîner avec des hommes, et pour ça les sections féminines c'est top, ça se développe de plus en plus. Et c'est toujours au même endroit, donc à Saint-Loup, et je pense que quand même ils ont fait pas mal pour le sport.
Merci.
Quand tu combats à l'étranger, c'est Jennifer la française ou Jennifer la marseillaise qui arrive sur le ring ou dans la cage ?
Les deux. Mais moi, j'ai à cœur de porter ma ville comme je l'ai fait à Dublin. Quand je suis rentrée sur Joule, j'ai fait le signe Joule en rentrant dans la cage. Mais bien sûr, forcément, Marseille, c'est une culture à part entière. Et quand tu es à l'étranger, déjà, de toute façon, peu importe, quand tu te déplaces dans la France et que tu parles, moi, ça m'est arrivé d'arriver sur une compétition et de dire bonjour. Tiens, vous êtes de Marseille. Enfin, voilà. Donc, forcément, on est précédé par notre réputation. Et quand j'étais en équipe de France, c'est vrai que ça, c'est anecdotique. Mais moi, quand je disais que je venais de Marseille, ils me disaient « Ah ouais, du coup, ça se passe comme dans les médias. » Non, en fait. Vraiment, je vous assure, on a une réputation Marseille. On est précédé par notre réputation. Et forcément... tout le monde pense que t'es un gangster parce que tu viens de Marseille. Mais c'est pas le cas. Il y a des super trucs à faire à Marseille.
Est-ce qu'il y a une personne emblématique à Marseille qui t'inspire, hormis ton entraîneur dont tu as parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une personne, une personnalité qui t'inspire aussi ?
Ah, il y en a plein. Il y a plein de personnalités, je pense. Moi, je vais surtout... Joule. On a beau dire ce qu'on veut, quand il a porté la flamme pour les JO, c'était la personne bien choisie. Là, clairement, on l'a vu avec ses deux concerts. Moi, je bosse à côté du stade Vélodrome. Je ne connais pas beaucoup d'artistes qui ont réuni 75 000 personnes sur deux soirs, qui regroupent des jeunes de 16 ans, des familles, des mères qui travaillent, des célibataires. Enfin, il a, je dirais, un public tellement différent. Et franchement,
il rassemble, quoi.
Ouais, exactement. J'étais hyper choquée de voir les gens qui allaient au concert. Il y avait de tout. Et je pense que c'est une personnalité. On a beau aimer ou pas aimer son style de musique, c'est quelqu'un qui rassemble et c'est le phénomène marseillais. Et pour moi, le suivre depuis des années, écouter ses musiques depuis des années, il a persévéré parce qu'il y a 10 ans en arrière, il n'était pas aussi connu et pas autant reconnu. Donc franchement, je pense que c'est une personnalité, c'est un symbole de Marseille.
Merci.
On arrive sur la fin de l'émission. Donc déjà, Jennifer, je voulais te remercier très sincèrement d'avoir participé, d'être aussi sincère avec nous et d'avoir osé être émue au micro. Donc ah ouais. Ça, c'est très beau et c'est le cadeau que tu pouvais nous faire le plus beau. Ah, en début d'émission, tu as entendu, il y avait cette définition-là de cette plante astragale.
Ouais.
Où on a voulu prendre la métaphore symbolique de ça, de cette résilience et de cette capacité à s'adapter. Jennifer, j'ai une question. Astragale ou pas astragale ?
Totalement astragale.
Voilà. Écoutez, je vous remercie énormément pour cette émission. Merci encore à toi, Jennifer, d'avoir accepté. Merci les filles de faire que cette émission existe. Et bien sûr, à Fréquence Mistral qui nous suit dans notre folle aventure de chroniques féminines et marseillaises. On finira avec un dernier morceau que tu nous as partagé, qui est un peu plus pour toi, qui résonne un peu plus dans la nostalgie, etc. C'est Nouveau Les Bianques et Naudi. Donc on finit sur ça. Encore merci et merci à vous tous de nous écouter.
Merci à vous.
Merci.
Merci les filles, merci beaucoup.